Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'aviez-vous remarqué, le pape François invite souvent à rêver dans ses encycliques sociales, notamment la dernière Fratelli Tutti, et même lors de ses rencontres avec les plus pauvres, le pape François n'a de cesse d'inviter à oser de grands rêves. Alors, à nous qui sommes en grande partie contraints à une vie d'église en veilleuse, je vous propose de rêver en continuant notre balade des grands sites d'Occitanie, des sortes de rêves éveillés tant la splendeur de la création y est grande, des rêves qui, au regard de leur histoire sainte, semblent traverser les âges et les tempêtes, telles des arches de Noé. Ce matin, cap sur Saint-Bertrand de Comminges, sorte de Mont-Saint-Michel, aux abords des Pyrénées. Site exceptionnel d'Occitanie, cap sur Saint-Bertrand de Comminges. C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce mardi, traditionnellement dédié à la vie de l'Église, à la mise en valeur des événements de la vie chrétienne de la région que l'on couvre. Et il faut trouver des astuces en ces temps de confinement. Nous sommes avec vous, Marcel Borier. Vous êtes prêtre du diocèse de Toulouse et recteur de la cathédrale Saint-Bertrand de Comminges. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Maïté Ruellan, vous êtes responsable, vous, de l'accueil des pèlerins de Saint-Jacques dans cette même cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et vous êtes tous deux donc en studio depuis nos studios de Saint-Gaudens. On dit dans le jargon, c'est du duplex, le miracle de la technologie. On ne se voit pas, mais on est ensemble. Alors on va aller se balader après le Cosméjan, après Rocamadour. On va donc au sud de la Haute-Garonne, dans le Comminges, découvrir un peu ce Mont-Saint-Michel, on va redire, de la Haute-Garonne. Je vous propose pour commencer la balade, comme on l'avait fait la fois dernière c'était avec Stéphane Bern. Là c'est la région Occitanie qui a produit un certain nombre de vidéos. On va écouter un extrait qui nous plonge un peu dans l'ambiance.
Saint-Bertrand, c'est mon nid. C'est vraiment un lieu où il fait bon vivre. Que ce soit pour quelques heures, pour quelques jours, ou pour la vie. Ces jeux d'enfants, on avait vraiment l'impression de vivre l'histoire presque au quotidien. On avait un décor de cinéma rien que pour nous. On s'imaginait en pleine invasion barbare en dévalant l'escalier antique qui relie la ville haute de la ville basse. Quand je repense à tout ça, c'est presque une sucrerie. En plus de tous les souvenirs d'enfance, c'est le cadre exceptionnel du site. On a une cathédrale gothique qui a des airs de château fort et qui est perchée sur un éperon rocheux. Saint-Bertrand, c'est aussi le festival du Comminges, un festival de musique classique, de musique sacrée, qui s'appuie sur un orgue absolument splendide, qui est sur pilotis, qui date de la Renaissance. Et qui est un joyau vraiment de Saint-Bertrand. J'ai vraiment l'impression de côtoyer l'histoire. Et je crois que ça fait aussi appel à mes souvenirs d'enfance. Et à...
Voilà, Saint-Bertrand de Comminges, c'est le début de la balade. Alors là, celle qui nous servait un peu de guide n'est pas en plateau. Elle s'appelle Isabelle Ségonzac, c'est une sabotière. Elle fait des sabots sur mesure, non seulement pour les gens du pays, mais aussi un peu partout en France. Elle fait même des sabots de prêt-à-porter. Alors Marcel Borier, on dit de Saint-Bertrand de Comminges que c'est un peu une sorte de Mont Saint-Michel au pied ou presque des Pyrénées. Je vous propose, avec vous, vous allez nous servir de guide au début de cette émission. On fait comme un peu de tourisme. Imaginons, on est en hélicoptère et on se balade au-dessus de Saint-Bertrand de Comminges. Qu'est-ce que l'on voit?
Alors voilà, il y a un éperon rocheux et sur ce rocher, une nef formidable. Cette cathédrale, en partie romane et en partie gothique. Et puis, si on continue de regarder le paysage, on voit tout autour des ruines. Et ce sont toutes des ruines romaines. Et il y en a qui ont même servi à construire la basilique Saint-Just, dans la plaine en bas, qui est une église pré-romane, qui a existé avant que Saint-Bertrand ne construise ou ne reconstruise la cathédrale.
Alors donc, c'était un lieu d'abord antique. Hein. Il faut dire qu'il y avait Lugdunum, c'était le nom de ce lieu. On disait même que c'était une sorte de petite Rome, ai-je lu. Il y avait entre 5 et 10 000 habitants à cette époque. Alors imaginons, là, on descend donc de notre hélicoptère. On ne va pas sur les ruines, on va dire, antiques et romaines, mais on se fait une petite balade dans la cathédrale Saint-Bertrand de Comminges, qui est donc la chose la plus frappante que l'on voit quand on arrive de loin, ou en tout cas vue du ciel. À quoi ressemble cette cathédrale, Sainte-Marie de Saint-Bertrand de Comminges, monsieur le guide ?
Bon, c'est une grande cathédrale, d'abord, qui a été partagée, je dirais, par l'un des évêques au XVIe siècle, Jean de Montléon, qui, pour être plus dans la tranquillité pour prier, a érigé un chœur, un jubé, où il pouvait prier avec ses chanoines. Et il a laissé le peuple avec un autel paroissial, je dirais à l'entrée de la cathédrale, sous les orgues qui ont été cités tout à l'heure.
Alors déjà on est rentré, hein, donc on a passé le tympan. Vous dites donc que l'on voit un grand jubé. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un jubé ? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir dans nos églises. À quoi ça ressemble, Marcel Borrier ?
C'est un chœur en bois pour Saint-Bertrand, qui a été inauguré la nuit de Noël 1535, et qui est probablement l'œuvre d'artistes italiens, parce qu'il y a plein de marqueteries, et en France à l'époque, on ne faisait pas encore la marqueterie. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un grand chœur, où, avec des stalles, il y a 70 stalles, et où l'évêque s'installait avec ses chanoines et d'autres prêtres sûrement pour prier. Et tout simplement, ça s'appelle un jubé parce que le chantre qui démarrait l'office s'adressait à l'évêque et disait « Jubé domne benedicere, maître veuille bien me bénir ».
Alors, la balade continue, donc on avance donc dans cette nef. Il faut le dire, donc, c'est une nef gothique, je m'y perds. Qu'est-ce qui est roman et gothique déjà, rappelez-nous, dans ce bâtiment ?
Comment ?
Qu'est-ce qui est roman et gothique dans cette belle cathédrale, rappelez-nous ?
Si vous voulez, la base, c'est la base faite par Bertrand de Lisle-Jourdain, qui devient évêque de Saint-Bertrand en 1073. Et donc, on est dans cette époque et il commence à construire la cathédrale. Et puis, les événements ont fait qu'un évêque de Saint-Bertrand, Bertrand de Gault, qui est devenu évêque de Bordeaux, a été le premier pape à l'Avignon. Et il n'a pas oublié son premier diocèse. Et c'est lui qui a participé au grandissement de la cathédrale et qui a justement présidé à la translation des reliques de Saint-Bertrand dans une chapelle digne de ses reliques.
Voilà. Alors, juste, monsieur le guide, là, ma question, c'était de la nef. Quand on se balade, qu'on est à l'intérieur avec vous, la nef est romane et le chœur est gothique, c'est bien cela ?
Alors, la nef est devenue gothique avec notamment tous les travaux faits par Jean de Montléon, qui est évêque au XVIe siècle. Donc là, on est déjà sur la fin du gothique, mais il va élever la cathédrale et en faire un grand vaisseau gothique.
Donc c'est un vaisseau gothique. Alors si on avance, donc on passe ce jubé donc, qui sépare, on va dire, la nef du chœur. Comme vous l'avez expliqué, il y en avait autrefois dans bien des églises. Qu'est-ce qu'on découvre de l'autre côté ? Il y a un grand reliquaire, si j'ai bien compris, où se trouvent donc les restes de Saint Bertrand de Comminges. On reparlera de ce personnage un peu plus tard. Il y a ce reliquaire et il y en a d'autres. À quoi ça ressemble ? Qu'est-ce qu'on voit, Marcel Borrier ? Dans le Saint des Saints, j'ai envie de dire.
Il y a carrément le tombeau de Saint Bertrand qui est là, avec tout plein de peintures qui datent probablement du 14e, 15e siècle. Hein, et c'est là, il y a vraiment le tombeau du saint patron de Saint Bertrand. Voilà, le tombeau de Bertrand de Lisle-Jourdain qui est là. Donc, le chœur se termine là, si vous voulez. Et quand on a certaines célébrations, il y a un autel dans le jubé, dans le chœur, où on célèbre la messe, parce que dans ce jubé, il rentre à peu près 200 personnes, pas tout à fait. Hein. Donc, voilà.
Et
on va souvent jusqu'au tombeau du Saint-Patron pour achever la cérémonie.
Alors, comme il y a beaucoup de choses à voir, je vous propose qu'on ne perde pas, on va dire, trop de temps, parce que le temps est compté. Donc, on va dire qu'on sort de la cathédrale. Peut-être qu'on peut dire que quand on lève les yeux, on voit un orgue monumental. On va l'écouter, cet orgue, brièvement. C'est une interprétation de Michel Chapuis, à l'orgue donc, de Saint-Bertrand de Comminges, orgue célèbre, si j'ai bien compris, qui interprète un prélude pour fugue en mi bémol majeur, BWV 552 de Jean-Sébastien Bach pour les spécialistes. Voilà, on va dire que ça signe notre sortie de la cathédrale. Imaginons qu'on reste, on va dire, dans les sites chrétiens. On dévale, si j'ai bien compris, l'éperon rocheux. Et puis on arrive à la basilique Saint-Just de Valcabrère. Alors, qu'est-ce que cette basilique au pied d'une cathédrale? Pourquoi est-ce qu'il y a deux lieux comme ça, Marcel Borier?
C'est une basilique qui est dédiée à deux petits saints, Juste et son petit frère Pasteur, qui étaient des saints de Castille, qui ont été martyrisés sous Dioclétien vers les années 307 en Castille. Et alors, on ne sait pas comment, mais des reliques de ces deux saints sont arrivées en Comminges. Et une basilique a été bâtie pour accueillir les reliques de ces deux saints. Et pour la construire, les habitants se sont servis de pierres romaines qui traînaient, ce qui fait que dans les murs de Saint-Just, on trouve des soleils, des décorations romaines. Voilà. Alors c'est très intéressant parce que pour les Espagnols, qui viennent souvent depuis le Val d'Aran jusque chez nous, c'est tout près, la frontière est à 30 km de Saint-Bertrand. Eh bien pour les Espagnols, il est plus important d'aller à Saint-Just et Pasteur, qui sont deux saints chez eux, que même monter à Saint-Bertrand.
Voilà pour cette basilique Saint-Just. Donc c'est une basilique romane, hein, si j'ai bien compris. Hein.
Basilique pré-romane même, si vous voulez, on est vraiment... Et quand Bertrand de Lisle-Jourdain arrive en Comminges, il s'installe à Saint-Just parce qu'en haut, tout est détruit.
Alors, si on doit continuer et finir la balade pour cette première partie, finir de mettre en bouche nos auditeurs, il y a donc des restes de l'époque romaine, donc de ce lieu Lugdunum, ville donc de 5 à 10 000 habitants, ce qui était assez considérable à l'époque. Qu'est-ce qui reste? J'ai cru comprendre qu'il y avait tant des établissements thermaux, temples, enfin ce ne sont que des ruines, mais il y a des traces d'une ville qui a été imposante à l'époque, n'est-ce pas?
Là, on trouve, si vous voulez, des ruines romaines ou des sites un peu partout. Et notamment, ce qui est très impressionnant, c'est qu'il y a des villas impériales. Il y en a une qu'on peut visiter, c'est des ruines. C'est Montmorin, mais il y a d'autres sites de villas impériales. Ce qui veut dire que les familles des empereurs de Rome venaient prendre l'air de temps en autre à Saint-Bertrand, qui a été une ville conçue et construite par Pompée, l'ami puis l'ennemi de César, parce qu'il s'occupait de l'Ibérie, de l'Espagne, et donc les troupes passaient par là pour rejoindre la péninsule ibérique.
Voilà pour le début de cette balade, ce site donc classé patrimoine mondial de l'UNESCO ou de l'humanité, ce sont les deux manières de le dire, cette espèce de Mont-Saint-Michel qui est aux portes des Pyrénées. On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour continuer cette balade. On parlera un peu de l'histoire sainte de ce lieu, un peu plus de ce fameux Saint-Bertrand qui était donc un évêque du 12e siècle. Voilà, ça fait loin, mais c'est un évêque qui a marqué, et il reste donc comme trace cette basilique où l'on retrouve son corps. Et on parlera aussi de l'accueil des pèlerins de Saint-Jacques, puisque le chemin de Saint-Jacques de Compostelle passe en ce lieu, et Maïté Ruelland leur sert, elle, de guide. On vous retrouve dans quelques instants.
Oh.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Site exceptionnel d'Occitanie, cap sur Saint-Bertrand de Comminges. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Et nous sommes avec Marcel Borier, qui est prêtre du diocèse de Toulouse, recteur de la cathédrale Saint-Bertrand de Comminges, et Maïté Ruelland, qui est responsable de l'accueil des pèlerins de Saint-Jacques en ce même lieu. Qui fait partie des plus beaux villages de France et qui est classé, pour rappel, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors Marcel Borier, il faut raconter un petit peu l'histoire de ce Saint-Bertrand de Comminges. Si j'ai compris, il a à la fois laissé une grande marque et en même temps on ne sait pas énormément de choses de lui. On sait entre autres qu'il était le fils d'Aton, seigneur de l'île Jourdain, est-ce bien cela ?
Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que la famille de l'île Jourdain était apparentée au comte de Toulouse et que Bertrand de l'île Jourdain était le petit-fils d'un comte de Toulouse. Et de même que la famille de l'île Jourdain, à cause de sa proximité avec les comtes de Toulouse, était apparentée de loin au roi de France. Donc c'était, si vous voulez, une famille très importante. Alors Bertrand, comme tous les jeunes nobles de l'époque, commence par, le métier des armes, et puis il en a assez, et il devient prêtre et chanoine de la cathédrale de Toulouse à Saint-Étienne. Mais voilà. Les chanoines de Saint-Bertrand, parce qu'ils existaient déjà, il y avait un diocèse qui date de 506, l'élisent comme évêque de Saint-Bertrand.
Alors il faut,
tout jeune.
Il faut dire qu'on est allé le chercher, hein. Il avait en fait une réputation de sainteté déjà à l'époque, on peut dire ça ?
Et il était déjà connu, si vous voulez, parce que, bon, de très grandes familles. Donc, il a été non seulement l'évêque, mais aussi le seigneur qui a rétabli l'ordre et puis la prospérité dans cette région qui était un peu en ruine depuis l'époque.
Il faut dire aussi que donc on est au XIe, XIIe, XIIe siècle et que l'Église à ce moment-là est traversée par ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Est-ce que vous pourrez rappeler ce contexte historique bien particulier ?
Alors on est juste après, sur la fin de la réforme grégorienne, parce que Bertrand devient évêque de Jourdain en 1073 et il mourra le 16 octobre 1123, donc il va être 50 ans évêque de Saint-Bertrand. Donc il aura le temps de faire plein de choses pour réorganiser la vie sociale dans le pays. Et il va avoir des inventions. D'abord, il va obliger les jeunes seigneurs qui n'arrêtaient pas de se battre à des trêves. Et puis, ce que j'admire beaucoup de Saint-Bertrand, c'est un des inventeurs des sauvetés.
C'est-à-dire, que sont les sauvetés ?
Des terrains acquis par l'Église, soit qu'on les leur donnait, soit que l'Église achetait, qui étaient bien balisés. Et là, les pauvres paysans, les serfs, opprimés par leur seigneur ou par leur patron, pouvaient se réfugier. Et on ne pouvait pas venir les y chercher. Et alors ces sauvetés ont donné le nom de tous les villages qui s'appellent sauveterres. Et il y a un sauveterre de Comminges, de même qu'un sauveterre de Béarn, ou la Salvetta. Tous ces villages de France, ou petites villes, viennent des anciennes sauvetés organisé par l'Église.
Alors Saint-Bertrand de Comminges donc, a été déclaré saint par l'Église, et ce peu de temps en fait, après sa mort, hein, moins d'un siècle, si j'ai bien compris. Il est décédé, donc, pour rappel, en 1123. La cité donc, prend le nom de son évêque déclaré saint, c'est en 1222. Il y a un livre des miracles de Saint-Bertrand de Comminges, comme il y en avait un la semaine dernière pour Rocamadour. Qu'est-ce qu'on a comme récit qu'on pourrait donner à l'antenne qui disent le récit assez rapide de ce lieu où on s'y presse et où Dieu exauce.
Le plus grand miracle connu, c'est ce brave Aubereau envoyé en Espagne qui est libéré de ses prisons à Barcelone. Mais il y a d'autres braves gens qui sont sauvés de leur fer parce que le saint qui est déjà décédé. Il le prie et il intervient pour eux. Donc ça, c'est déjà connu. Mais alors, de son vivant, on lui attribue aussi pas mal de miracles, notamment auprès des pauvres gens. Parce que dans ce Moyen-Âge, à l'époque, et surtout dans un pays abandonné, un peu en ruine, les petits seigneurs en profitaient pour asseoir leur pouvoir et leur richesse. Et alors c'est là, il y a des miracles des pains, ils transforment des pierres en pain pour les braves gens, il y a des miracles de vin, etc. Mais les citer tous, ça nous prendrait
Ça nous prendrait du temps. Alors, des pauvres, d'une certaine manière, il y en a encore qui se pressent à Saint-Bertrand-de-Comminges. Je dis bien d'une certaine manière, je ne veux pas me les montrer du doigt. Mais ce sont les pèlerins de Saint-Jacques, puisque Saint-Bertrand-de-Comminges se trouve sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, en tout cas sur une des variantes. Maïté Ruelland, vous êtes donc, on va dire, multicasquette, et entre autres responsable de l'accueil des pèlerins de Saint-Jacques, pardon, à la cathédrale Saint-Bertrand de Comminges. Combien y a-t-il de pèlerins qui passent ici chaque année, que vous accueillez d'une manière ou d'une autre, et d'où viennent-ils?
Alors, vous avez d'une part les pèlerins qui viennent en car, par exemple, de Lourdes souvent, qui vont passer juste la journée sans être hébergés. D'accord? Et ensuite, vous avez en effet les pèlerins à pied ou en vélo, qui sont hébergés à Saint-Bertrand et qui sont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ou bien il y a aussi le parcours lancé par le conseil départemental il y a quelques années, qui s'appelle la Via Garona, GR 861, un chemin de randonnée de 170 km qui part de Toulouse et qui se termine à Saint-Bertrand-de-Comminges. C'est environ un trajet d'une semaine.
Alors ça, c'est pour la Via Garona. La variante du chemin de Saint-Jacques, comment s'appelle-t-elle déjà?
Alors, ça s'appelle la voie du Piémont pyrénéen. C'est le GR78.
Qui vient de...
Ça part de Carcassonne et ça va à Saint-Jean-Pied-de-Port, environ 507 km et 21 jours de marche, pour bien sûr emprunter ensuite le Camino Francese jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, soit 807 km de plus et 34 jours de marche en plus.
Alors, on peut se faire tamponner donc sa crédentiale chez vous. Il y a combien de pèlerins qui passent à la louche chaque année, qui gravissent cet éperon rocheux?
Alors, sont mélangés ceux qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle et ceux qui font la Via Garona. Hein. Ceux qu'on héberge au presbytère, je dis bien. On en a eu, je me base sur l'année dernière, puisque cette année, on a eu une lacune, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup moins de monde. L'année dernière, on en a eu à peu près 240 au presbytère, dont 45 étrangers, et on a eu une cinquantaine de Via Garona.
Alors 240, c'est presque du coup du sur-mesure comme accueil. Comment vous vous y prenez pour les accueillir? Alors peut-être avant de détailler, quelle est dans le fond, on va dire, la vision ou la manière dont vous avez décidé pastoralement, tous ensemble, d'accueillir ces pèlerins? Quel est le but de l'arrêt quand il s'arrête à Saint-Bertrand-de-Comminges pour vous?
Alors je me suis dit qu'il fallait être digne d'un accueil de la part de notre saint évêque, et je me suis dit donc on va essayer de les accueillir très joyeusement. Je les héberge au presbytère avec dîner, petit déjeuner inclus en donativo. C'est libre participation aux frais. Alors au presbytère, la halte n'est ouverte uniquement que du mi-mai à mi-octobre, puisque le rez-de-chaussée, nous n'avons que des petits chauffages d'appoint. Et en 5 mois, 246 pèlerins l'année dernière, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail dans le temporel.
Alors l'amour se dit dans les petites choses, mais ma question c'était davantage, quand vous voyez un pèlerin, quel est un peu le but de l'accueil? J'ai cru comprendre que voilà, vous aviez en fait un peu délégation pastorale aussi pour essayer de les conduire à Dieu d'une certaine manière.
Tout à fait. C'est-à-dire, c'est un témoignage de foi que je fais, et on se partage, c'est un vrai partage, puisque je fais le repas avec eux. Quelquefois, je peux passer des soirées justement à écouter tous leurs soucis, par exemple, être à l'écoute, leur donner peut-être des conseils aussi.
Alors, quid des balades ou visites spirituelles que vous leur proposez? Vous leur servez de guide, un peu comme Marcel Bory nous a servi de guide au début de cette émission. Comment vous vous y prenez? Il y a, je ne sais pas, tous les soirs ou tous les jours, une visite spirituelle de ces lieux?
Alors, ce n'est pas tous les jours. Donc, je le fais aux pèlerins qui sont soit à pied ou en vélo, mais également à tous les grands groupes de pèlerins qui arrivent de partout. Au fait, je fais une description, toute simple, mais je vais toujours approfondir la signification, par exemple, des sculptures. toujours parlé plus ou moins de l'amour de Dieu, tout simplement. Je parle aussi de Benoît-Joseph Labre.
Alors j'allais y venir justement. Il y a une statue dans la cathédrale Sainte-Marie, donc de Saint-Bertrand de Comminges, qui est de ce saint. Rappelez qui est ce saint et pourquoi, quelque part, il a quelque chose à dire aux pèlerins.
Bah, c'est le saint patron des pèlerins, déjà. Donc c'est lui qui accueille tous les pèlerins qui passent à Saint-Bertrand. Ensuite, c'est le saint patron des hospitaliers. Au fait, ils ont rajouté Lourdes, mais il a été hospitalier ici, à Saint-Bertrand.
Alors, qui était-il, pour rappel ?
Alors, il est né en 1748 à Ametz, Nord-Pas-de-Calais. Et au fait, c'était un garçon aîné de 15 frères et sœurs, mais il n'arrivait pas à s'adapter à sa famille. Il est vite parti habiter avec son oncle. Et à un moment donné, son oncle meurt. À 18 ans, il est perdu. Il essaye de chercher éventuellement un lieu où il pouvait devenir prêtre ou s'installer, mais il n'y arrive pas. Et donc, il s'en va en disant « ça y est, j'ai trouvé ma mission, je vais être pèlerin ». C'est-à-dire qu'il a fait du pèlerinage une mission. Et en 1773, il est passé à Saint-Bertrand.
Alors, il faut dire qu'il était pris aussi comme pour un pauvre, hein, comme pour un mendiant. Hein. C'est un homme qui a fait...
Il a été très mal vu, hein. Très mal vu, sauf pour les gens qui le connaissaient.
Alors, donc, on peut s'arrêter donc devant sa statue et puis trouver un écho à ce que l'on vit. On y reviendra hein, sur votre accueil des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle à travers votre témoignage, Maïté Ruelland, puisqu'on va faire connaissance avec vous dans la dernière partie de l'émission. Vous êtes un peu le témoin du jour, choisi par les soins de Marcel Borier. Pour chacune de ces émissions, on essaie de trouver une figure chrétienne qui parle, qui dit quelque chose de ce lieu. Marcel Borier, à quoi ressemble un peu la pastorale, on va dire, ordinaire? On a vu à grands traits donc un peu l'histoire sainte de ce lieu. Je ne sais pas, dans votre cure, je ne sais pas si c'est une cure du coup, il y a combien de personnes? Vous avez charge d'âme de combien d'âmes et comment est-ce que vous essayez de vous y prendre?
Alors voilà, si vous voulez, je suis responsable de Saint-Bertrand, de Valcabrère et de La Brocaire. Trois petits villages, au total, ça fait de nos jours 600 habitants. Donc, si vous voulez, il n'y a pas un travail énorme pour le prêtre. La seule chose, c'est que j'y suis depuis 11 ans et pratiquement tout le monde me connaît, je connais tout le monde. Quoi. C'était vraiment un aspect de famille qui est important.
C'est-à-dire que vous connaissez Isabelle Ségonzac, qu'on a entendu, la sabotière de Saint-Bertrand ?
Oui, je la connais bien. Je connais aussi sa mère qui était pharmacienne, etc. Oui, je connais tout le monde.
Hein ? Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Du coup, c'est quelque part une pastorale classique d'un si tout petit village, c'est ça?
Le moment le plus important, ce sont les messes du dimanche, parce que c'est un haut lieu et il y a des gens qui viennent de partout. Depuis la fin du confinement, du dernier confinement, là, depuis qu'on a repris, il y a les dimanches autour de 200 personnes qui viennent, qui sont là. Parce que c'est un haut lieu, ce n'est pas... les quelques chrétiens de nos villages qui vont combler la cathédrale. Mais il y a des gens qui viennent de partout parce que Saint-Bertrand est connu, c'est un haut lieu. Et c'est surtout c'est là que se situe le rassemblement le plus important pour nous de la semaine.
Voilà, on va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour faire connaissance avec Maïté Ruelland après avoir parcouru à grands pas donc l'histoire sainte de ce lieu d'hier et d'aujourd'hui. On reparlera de ces pèlerins de Saint-Jacques qui sont en petit nombre, mais ils sont vénards car en ce lieu ils sont choyés donc par vous, Maïté Ruelland. Vous avez une belle histoire, on va la découvrir dans quelques instants.
Radio Présence, dans la vallée de la Garonne, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Site exceptionnel d'Occitanie Cap sur Saint-Bertrand de Comminges, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce mardi. On continue notre balade initiée déjà il y a deux semaines après le Cosmejan et Rocamadour. Nous voilà donc dans le sud de la Haute-Garonne avec Marcel Boyer qui est prêtre du diocèse de Toulouse et recteur de la cathédrale Saint-Bertrand de Comminges et Maïté Ruellan qui est responsable de l'accueil des pèlerins de Saint-Jacques en ce même lieu classé pour rappel au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors Maïté Ruellan, vous... vous êtes, on ne vous voit pas, mais vous avez des origines, on va dire, surprenantes. Si on vous rencontre et qu'on connaît un peu votre histoire à Saint-Bertrand de Comminges, vous venez du Japon. Vous m'avez dit que vous êtes né 10 ans après la bombe d'Hiroshima. C'est vous-même qui avez fait cette précision. Dites-nous déjà un peu vos origines.
Alors, je suis né d'une maman japonaise de Fukushima, qui à l'époque avait fugué et est allée à Tokyo. Ensuite, mon père breton, attaché militaire à l'ambassade de France à Tokyo. Au fait, c'était un mariage interdit à l'époque au Japon, ainsi que de la part du consulat de France. Une histoire invraisemblable d'amour.
Une histoire invraisemblable d'amour. En plus, pour compliquer les choses, on disait que vous aviez un physique métissé un peu hispanique. Toujours est-il que dans votre enfance, vous avez, on va parler un petit peu de votre parcours de foi, avant de dire comment vous avez atterri à Saint-Bertrand de Comminges, car c'est un long voyage et une grande aventure. Vous m'avez dit que vous aviez eu le sentiment, étant enfant, d'être une étrangère rejetée. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça n'était pas du tout le sentiment, on me montrait du doigt, on me disait « sale étrangère, sale américaine, rentre dans ton pays », mais je me disais « mais rentrer où ?». Ensuite, vraiment, les enfants qui me faisaient des grimaces, des mamans qui me montraient du doigt, c'était horrible. J'en ai souffert, ma mère m'a expliqué pourquoi, donc j'ai compris. Et ensuite, donc, je me suis dit, à 3 ans et demi, école maternelle française, je me suis dit « ça y est, c'est bon, les Français vont m'accepter, avec mon physique ». Donc j'arrive, c'était une religieuse française qui était ma maîtresse. Et dès le premier jour, j'ai été mise au coin pour je ne sais quoi. Et donc j'ai compris ensuite qu'elle ne supportait pas les Japonais. Et elle ne me supportait pas parce que j'avais une maman japonaise.
Alors de ça, Dieu d'une certaine manière a fait des merveilles. Il s'est invité au cœur de cette souffrance puisque très tôt, vous dites que vous avez rencontré le Christ et qu'il est devenu quelqu'un pour vous. Racontez-nous.
Alors, j'avais un peu moins de 4 ans. La religieuse propose de rentrer dans une chapelle, de passer 5 minutes de recueillement avant les cours. Pour moi, c'était la première fois, puisqu'au Japon, il y a très peu d'églises. Mes parents n'étaient pas du tout pratiquants. Je rentre dans la chapelle et je ne sais pas ce qui s'est passé. Tous les autres enfants restaient debout, j'étais la seule, je me suis agenouillée. Je devais souffrir terriblement, je pense. Et je me suis dit, mon sauveur est là. Une conviction incroyable, justement, de la présence de Dieu dans ce lieu. Et après, je me retourne et je vois la croix. Et je vois cet homme suspendu sur la croix. J'ai failli pleurer, j'ai eu pitié, je me suis mise en colère. Et je lui ai promis, tout simplement, en disant, écoute, sois patient, attends que je sois grande et forte. Et je te porterai dans mes bras.
Quelle magnifique histoire. Alors après, vous avez eu de multiples carrières. Vous avez travaillé dans la mode, pour des défilés haute couture à Tokyo ou à Paris, dans l'accueil de Français au Japon, dans l'import-export. Vos pas ont fini par vous mener, après 30 ans au Japon, donc à Paris, pendant 10 ans. Et à l'occasion de l'un de vos jobs, vous êtes retrouvé à Saint-Bertrand de Comminges. C'était à l'occasion même d'un tournage. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Bertrand de Comminges pour que la franco-japonaise que vous êtes vienne vivre en ce lieu?
Alors, déjà, j'avais un message à l'âge de 12 ans qui était très précis, qui venait du Seigneur, qui me disait « Plus tard, quand tu seras grande, tu iras en France ». Je lui pose la question, mais Seigneur, où en France? Et il me dit, mais tu sais pourquoi on t'a donné le prénom Maïté? Je dis non. Bah, c'est parce qu'il faut que tu ailles dans la région où tu trouveras le plus de Maïté. Et ensuite, je lui pose la question, mais Seigneur, comment je pourrais te suivre, justement, pour pouvoir être ton serviteur? Il me répond tout simplement, fais exactement ce que ta mère te dira de faire. C'est ainsi que je suis tombée dans tous ces métiers, ce charisme.
Alors, votre mère, en l'occurrence, c'était donc votre mère de sang, hein, qui vous a incité donc à faire de multiples métiers. Donc, l'un de ces métiers vous a amené en France et à Saint-Bertrand.
Oui, tout à fait. J'étais à Paris et j'ai même quitté tous mes meilleurs amis en disant « Je suis désolée, j'ai une mission à accomplir et je vous quitte tous ». Bon, ils ont été très surpris, ils n'ont pas compris. Je me suis lancée dans l'audiovisuel pour retrouver justement ce lieu où je devais aller, où il y avait le plus de Maïté. Donc, on est allé dans les Pays Basques. On a été filmé Lourdes, j'ai été aussi secouée. Et enfin, quand on est arrivé à Saint-Bertrand, quelque chose d'incroyable. Déjà, quand on est allé frapper à la porte du presbytère, j'ai vu une immense lumière jaillir du presbytère. Je n'avais pas compris ce que c'était. Et maintenant, bah, croyez-moi, j'y habite, j'y suis. C'est ça qui est incroyable.
Alors, si vous deviez préciser un petit peu, c'est-à-dire en fait, quand vous vous êtes retrouvé en ce lieu, vous avez senti un appel de Dieu à rester après en ce lieu, c'est ça?
Oui. Au fait, c'est comme un aimant, c'est-à-dire que on n'arrive plus à décoller. Voilà. Et on sent vraiment. Il me demande de rester là. Bien sûr, bon, plus tard, donc, je suis retournée au Japon pour faire des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Là, j'ai été vraiment retournée, comme on dit, comme une crêpe. Et en revenant en France, je suis allée frapper à la porte. Donc du presbytère. À ce moment-là, on avait un autre curé qui était beaucoup plus vieux, le père Pierre Auger. Et je lui ai dit, voilà, me voici, je viens au service de l'église. C'était il y a 15 ans.
C'était donc en 2004, vous m'avez dit. Hein, donc ça fait 25 ans maintenant que vous êtes plus ou moins dans les Pyrénées. Là, vous avez donc toqué à la porte de l'église. Alors derrière, vous avez pris votre bâton de pèlerin, d'une certaine manière. Exactement. Puisque vous avez fait donc des études à l'Institut catholique de Toulouse, à l'IERP. On invite souvent à cette antenne des personnes de l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, pour devenir, on va dire, une conférencière émérite et puis être bien imbibée de culture chrétienne. Donc votre mission, c'est en grande partie donc d'accueillir les pèlerins de Saint-Jacques. Vous vouliez revenir dessus et nous partager quelques-unes des merveilles que Dieu fait en ce lieu, à travers des petites choses, hein, puisque vous prenez aussi soin avec tendresse des pèlerins dans les petits détails. Vous aviez entre autres quelques clins d'yeux, comme on dit, à nous partager. Alors quels sont-ils?
Alors clins d'yeux. Il y a une certaine Maria qui avait réservé. Et donc, elle arrive, elle était avec son mari. Ils faisaient le chemin inverse. Ils allaient de Lourdes vers Saint-Bertrand, donc vers Carcassonne. Et en vélo. C'était des Catalans. Et donc, le couple arrive. Maria se présente, Maria. Et le mari, donc, qui parlait beaucoup moins français, me dit « Jésus ». Mais j'ai dit « Mais dis donc, on a Marie et Jésus, mais c'est incroyable ». Et là, à ce moment, un autre pèlerin français qui faisait le chemin inverse, à pied, et qui n'avait pas réservé, donc c'était la surprise. Un autre pèlerin arrive, français, il arrive, il dit « Bonjour, je suis Joseph, et voici que nous avons accueilli la Sainte Famille ».
En tout cas, ça vous a bien fait rigoler sur le moment. Alors ça, c'est un clin d'œil.
L'accueil a été très joyeux dès le départ. Ça, les trois, on a beaucoup rigolé.
Ça, c'est un clin d'œil, on va dire, donc que vous tirez de votre besace. Vous me disiez que souvent, les pèlerins qui arrivent sont en fait des gens qui portent des choses très lourdes. Comment vous vous y prenez pour les accompagner? Quel chemin peut-être vous les aidez à faire? Est-ce que vous avez un exemple, un visage qui vous revient?
Des mamans qui ont perdu un jeune enfant. Récemment, donc, c'est un Vincent, jeune, 35 ans, qui a tout perdu, sa compagne, sa société. Il conduisait sans permis, donc tant qu'à faire, il ne pouvait plus conduire de véhicule, mais absolument tout perdu. Il était tellement choqué, dans un état de choc, qu'il s'est dit, avant de faire quoi que ce soit, je vais aller marcher. Donc c'était sa première fois. Et sur ce chemin, donc, il arrive. Un autre pèlerin, la veille, deux jours avant, je veux dire, m'avait prévenu de ce Vincent et m'a demandé, écoute, ça serait bien si tu pouvais l'écouter. Et donc, il arrive, sans réserver, et à l'accueil, donc, on lui demande, est-ce que vous allez héberger ici? Il répond, ben, je ne sais pas. Et là, je lui dis, Vincent, je suis là pour t'accueillir. Déjà très surpris parce que je connaissais son nom. Et donc, je l'ai amené au presbytère. On a parlé, discuté. Et là, récemment, il vient de me rappeler en disant « C'est superbe, j'ai retrouvé une nouvelle vie et tout va bien. »
Marcel Bourrier, vous avez oublié de préciser que quelque part, vous aviez aussi charge d'accueil indirectement, puisque c'est, semble-t-il, Maïté Ruland qui beaucoup est au charbon, et j'ai envie de dire, des pèlerins de Saint-Jacques. Parfois, on le dit à cette antenne, hein, c'est comme un... on peut avoir le sentiment, hein, je le dis de manière un petit peu peut-être provocatrice, hein, que c'est un peu un angle mort de la pastorale. C'est pas moi qui le dis, hein, récemment on avait une invitée, Adeline Recoix, qui disait cela. Un angle mort de la pastorale dans notre grand sud-ouest. Il y a du monde qui marche, ils ne cherchent pas toujours Dieu, mais on essaye de les y conduire. Est-ce que vous, c'est une attention que vous portez en ce lieu ?
Oui, moi je rencontre parfois les pèlerins, c'est Maïté qui fait tout l'accueil, je dirais. Mais il arrive que tel ou tel veuille parler à un prêtre. Alors je me rappelle d'une anecdote, quelqu'un qui avait perdu son père récemment, une certaine Danielle qui avait été médecin en Afrique et tout ça, qui a voulu attendre que je vienne, j'étais à Toulouse, que je revienne à Saint-Bertrand, parce que son père s'appelait Marcel. Et alors cette brave dame, eh bien... m'a été là occupée en attendant ma venue. Elle m'a fait faire les carreaux du long couloir du presbytère qui mène aux chambres des pèlerins. Et j'ai parlé avec elle. Cette brave dame ne savait pas pourquoi elle avait quitté chez elle. Elle a retrouvé la foi. Donc il y a des petites anecdotes comme ça, de petits événements qui sont intéressants.
Et ben voilà, Saint-Bertrand de Comminges, donc des petites histoires ou la grande histoire, qu'on y vienne en pèlerin ou qu'on y vienne en touriste, on pourra donc se régaler, s'en mettre plein les yeux et plein le cœur. Il faut donc préparer à s'y rendre quand les restrictions de déplacement seront levées. Et la fête de Saint-Bertrand de Comminges, c'est le 16 octobre de chaque année. On espère qu'on ne sera pas confiné évidemment jusqu'à cette date et qu'on pourra venir vous rendre visite en ce lieu. Avant, merci beaucoup d'avoir été au micro de Vivante Église pour ce site exceptionnel d'Occitanie de la semaine Saint-Bertrand de Comminges. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.